بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. Donc le huitième chapitre dans le livre de la prière, c'est sur l'imama, c'est-à-dire le fait d'être imam. والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. المسألة الأولى من أحق بالإمامة. Donc la première question, qui mérite le plus d'être imam, c'est-à-dire imam dans la prière. Sachant que imam, donc là on fait la parenthèse, imam quand vous lisez, on l'a déjà dit, le mot imam dans la religion c'est un mot plus vaste que simplement l'imam de la prière. Quand on lit l'imam par exemple ta'atul imam, des trucs comme ça, ça veut dire le gouverneur. Et l'imam dans l'langue arabe ça veut dire un guide en fait, quelqu'un qui guide ou qui dirige et qu'on suit. Donc l'imam dans de nombreux textes, des hadiths, ça veut dire le gouverneur, imam ul muslimin. Ou alors imam dans le sens l'imam qui dirige la prière. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم il a montré qui avait le plus le droit d'être l'imam, qui est le plus digne d'être l'imam. Il a dit, guide les gens, c'est-à-dire celui qui guide les gens dans la prière, c'est celui, aqra'uhum li kitabillah, c'est-à-dire qui mémorise ou qui est le plus savant du livre d'Allah. Et s'ils sont dans la lecture, s'ils sont égaux dans la lecture, c'est-à-dire ils mémorisent tous la même partie du Coran, alors le plus savant d'entre eux en ce qui concerne la sunna. Et si dans la sunna ils sont égaux, alors le plus ancien dans la hijra, dans l'émigration. Et si dans l'émigration ils sont égaux, alors le plus ancien dans l'islam. Ça c'est dans Sahih Muslim. Donc là ils vont détailler, ils disent أولاً أجودهم قراءة وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه العالم بفقه الصلاة. Donc il dit, le premier c'est celui qui lit le mieux le Coran. Donc c'est celui qui lit, correctement le Coran, يتقن, c'est-à-dire il lit parfaitement le Coran. Et qui connaît aussi le fiqh de la prière, c'est-à-dire les différentes règles reliées à la prière. فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ هُوَ أَجْوَدُ قِرَاءَةً وَمَنْ هُوَ أَقَلُّ قِرَاءَةً مِنْهُ لَكِنَّهُ أَفْقَهُ قُدِّمَ الْقَارِئُ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَقْرَهُ غَيْرَ الْفَقِيهِ فَالْحَاجَةُ إِلَى الْفِقْهِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِهَا أَشَدُّ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى إِجَادَةِ الْقِرَاءَةِ. Ils disent, si, il y a deux personnes, donc une personne qui lit mieux que l'autre, et une autre qui lit peut-être moins bien, mais il a plus de science, afqa. Donc il a plus de fiqh, donc il connaît mieux les règles de la prière. Dans les deux lecteurs, on va mettre en priorité celui qui a plus de science, même s'il lit moins bien que l'autre. Parce que ils disent ici, dans la prière, on a plus besoin de connaître les règles de la prière que de la belle lecture du Coran. ثانيا ثم الافقه الاعلم بالسنه فاذا اجتمع امامان متساويان في القراءه لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. Deuxièmement, donc celui qui a plus de science en ce qui concerne la sunna, c'est-à-dire les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc si on a deux imams égaux dans la lecture, mais que l'un il est plus savant dans la sunna, alors on met en priorité le plus savant de la sunna, comme c'est dit dans le hadith précédent. ثالثا ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. Troisièmement, le plus ancien dans l'émigration des pays de mécréance vers les pays de l'islam, s'ils sont égaux dans la lecture et dans la science. C'est-à-dire, donc, si on a deux imams qui ont la même lecture, la même mémorisation et en plus la même science dans la sunna, alors on va considérer, mettre en priorité celui, le premier des deux qui a fait ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire l'émigration des pays de mécréance aux pays de l'islam. Donc ça c'est pas seulement pour l'époque du prophète, puisque la hijra elle ne s'arrête pas. Ça c'est toujours quelque chose de légiféré pour les musulmans, des pays de mécréance vers les pays de l'islam. ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. S'ils sont égaux dans tout ça, alors on devance celui qui s'est converti le plus, il y a le plus longtemps. خامسا ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولقوله صلى الله عليه وسلم ولأمكم أكبركم. Ensuite, le plus âgé, donc s'ils sont égaux dans toutes ces caractéristiques, c'est le plus âgé qui fera imam, puisque dans une des versions, il a dit le plus ancien, c'est-à-dire Aqdamuhum, il n'a pas dit dans l'islam, il a dit dans l'âge. Et dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le plus vieux d'entre vous fasse l'imam. فَإِذَا اسْتَوَيَ فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ قُرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ غَلَبَ فِي الْقُرْعَةِ قُدِّمْ. Et si ils sont vraiment égaux dans tout ça, on fait un tirage au sort entre les deux. وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ ضَيْفِهِ. Et celui qui est dans sa maison est prioritaire dans l'imam. C'est-à-dire même s'il a quelqu'un qui lit mieux que lui dans la maison, par exemple. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ. Dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ne soit pas l'imam d'un autre chez lui, fi ahlihi, c'est-à-dire dans sa famille. Wala fi sultani, et non plus dans son pouvoir. C'est-à-dire si par exemple il y a l'émir de la région, etc., personne ne doit se devancer ça à lui d'être imam. Et à l'époque des salafs, si on regarde dans l'histoire, c'était comme ça. C'est-à-dire les émirs ou les gouverneurs, ou le khalifa, c'est-à-dire le calife, c'est lui qui faisait l'imam. Même s'il avait moins de science, ou alors ils avaient parfois certains péchés, mais c'est eux, en tant que gouverneur, qui dirigeaient la prière. وَكَذَا السُّلْطَانُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَاضِي قَبْلَ قَلِيلٍ. Et c'est ce qu'ils disent ici, ils disent, de même, l'homme de pouvoir est plus digne d'être imam qu'autre que lui. وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ, c'est-à-dire le chef, entre guillemets, suprême des musulmans, conformément au hadith qui vient de passer. وَكَذَلِكَ إِمَامُ الْمَسْجِدِ الْرَاتِبِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا مِنَ السُّلْطَانِ. Il dit aussi l'imam al-ratib, c'est-à-dire l'imam habituel, qui est désigné comme étant imam de la mosquée, lui il est plus digne qu'autre que lui. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si par exemple il y a un savant qui vient faire une conférence dans une mosquée, eh ben, c'est pas le savant qui va, même s'il lit mieux le Coran et il a plus de science, l'imam ça reste l'imam, puisque c'est al-ratib. C'est-à-dire c'est toujours lui qui est habitué à faire la prière. Sauf l'homme de pouvoir. Si c'est un homme de pouvoir qui passe dans la mosquée, là oui, c'est lui qu'on va devancer, même devant l'imam habituel. Même si autre que cet imam habituel a plus de science et lit mieux le Coran. لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ. Tout ça, il est aussi sorti du même hadith. Qu'un homme ne dirige pas un autre homme c'est-à-dire dans les siens, ahlihi, c'est-à-dire sa famille ou les gens de chez lui, et non pas dans son sultan, c'est-à-dire la région où il a pouvoir. Al-mas'ala al-thaniya man tahrumu imamatuhu. Deuxième chose qui est interdit de faire imam. Tahrumu al-imamatu fil halat al-atiya. Donc ils vont citer cinq cas. Imamatu al-mar'ati bir-rajul. Le fait que la femme fasse imam devant l'homme. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Donc conformément au hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, et l'aspect général, l'essence générale de ce hadith qui dit ne réussira pas un peuple qui a mis à sa tête une femme. ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وستران. فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. Et parce que la base c'est que la femme elle soit reculée dans les derniers rangs pour la protéger, pour la cacher. Donc si on la met en imam, ça contredit complètement cette base. ثانيا إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. Deuxième chose, c'est al-muhdith, c'est-à-dire celui qui n'a pas les ablutions, ou alors man alayhi najasa, celui qui a une impureté rituelle sur ses vêtements ou sur son corps, et qui sait cela. Donc quant à ceux qui sont derrière lui, s'ils ne savent pas, par exemple qu'il n'a pas les ablutions ou qu'il a une impureté sur son corps, jusqu'à la fin de la prière, leur prière elle est valable, mais lui il doit la refaire. Mais eux, s'ils ont prié derrière un imam dont ils pensaient qu'il avait ses ablutions, jusqu'à la fin de la prière, c'est-à-dire il n'est pas sorti, eux leur prière elle est valable, ils la refont pas. ثالثاً إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم ويبدل فيها حرفا بحرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجز عن ركن الصلاة. Troisièmement, al-ummi, c'est-à-dire, entre guillemets, l'illettré. En fait, ce qui est voulu ici, ils disent, c'est celui qui ne sait pas bien lire la Fatiha, et qui ne la mémorise pas, et qui ne sait pas bien, il ne sait pas bien la réciter. C'est-à-dire, par exemple, il met, et ils disent ici, il fait l'idram là où il n'y a pas d'idram, ou alors il change une lettre par une autre lettre, ou alors il fait l'ahn, c'est-à-dire une erreur dans la prononciation ou dans les lettres, qui change la signification. Donc celui-là, il n'a pas le droit de faire imam, en tous les cas. Sauf devant quelqu'un qui est comme lui, c'est-à-dire qu'il va faire aussi les mêmes fautes, alors ils n'ont pas le choix, donc il fera imam. Parce que ça, c'est un pilier de la prière, donc sans lequel la prière n'est pas valable, donc il ne peut pas faire imam devant quelqu'un qui sait réciter la Fatiha alors que lui ne sait pas la réciter. رابعا إمامة الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Aussi ils disent ici l'imam فاسق مبتدع, c'est-à-dire innovateur et désobéissant. La prière n'est pas valable derrière lui si sa désobéissance est apparente, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'il faut en cacher, qu'il appelle à une innovation, mais une innovation mukaffira, parce que les innovations elles sont de deux sortes. Bid'a mufassiqa, c'est-à-dire une innovation qui est considérée comme une désobéissance, et bid'a mukaffira, c'est une bid'a qui atteint, une innovation religieuse qui atteint le stade de mécréance. Comme par exemple, on va dire le tawaf autour des tombes, on peut dire que c'est une bid'a dans la religion. Ou alors le fait d'égorger pour les gens qui sont dans les tombes, on peut dire que c'est une bid'a, puisqu'ils le font de façon religieuse, et c'est une bid'a mukaffira. Elle atteint le stade de kufr. Donc celui qui fait ça, on ne peut pas prier derrière. De toute façon, ça c'est aussi valable pour celui qui fait du al-kufr sarih, ou alors al-kufr al-bawah, ou alors par exemple, ça aussi, ça c'est un cas qu'on rencontre plus souvent, c'est celui dont on sait qu'il fait de la sorcellerie. Mais ce n'est pas les on dit. On m'a dit qu'il fait de la sorcellerie. C'est-à-dire, tu es sûr qu'il fait de la sorcellerie. Par exemple, il a mis une annonce dans le journal. Ça arrive, il met une annonce, le hajj à tel, et s'il te ramène ta femme en 24 heures, etc. Ou alors, il vous retrouve quelque chose que vous avez perdu, ou etc. Donc lui, il publie, et il appelle, et il déclare clairement qu'il fait du sihr, que ce soit la voyance, ou la sorcellerie, ou, etc. Donc lui, il a rendu public son kufr. Donc lui, on ne peut pas prier derrière, et la prière derrière, elle est invalide. Cinquièmement, ils disent العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. Cinquièmement, ils disent celui qui ne peut pas faire l'inclinaison, la prosternation, ou le qiyam, c'est-à-dire la station debout, ou le fait de s'asseoir. Celui-là, il ne peut pas être imam devant quelqu'un qui peut le faire. المسألة الثالثة من تكره إمامته. La troisième question, qui est, entre guillemets, déconseillé de faire imam. Donc ce n'est pas interdit. Son imam, il est valide, mais c'est déconseillé. أولاً اللحن وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة وهذا في غير الفاتحة. Donc celui qui fait beaucoup de fautes dans la lecture du Coran, en dehors de la Fatiha. Si c'est dans la Fatiha, on l'a vu. Là, il ne peut pas faire imam du tout. Mais si c'est en dehors de la Fatiha, c'est détestable. أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى وذلك لقول النبي يأم القوم أقرأهم. Quant à la Fatiha, donc si il fait des erreurs dedans à tel point qu'il change la signification, comme on l'a vu précédemment, alors celui-là, carrément, c'est invalide. Et ça, c'est conforme au hadith qui dit, celui qui fait imam, c'est le aqra'um, c'est-à-dire celui qui récite le mieux. ثانياً من أما قوماً وهم له كارهون أو يكره أكثرهم لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً Rajulun amma qawman wa hum lahu karihun. Ça c'est dans les sunan. Ils disent ici dans les sunan d'Ibn Majah, et que Sheikh Al-Albani dit c'est un hadith hassan, et aussi An-Nawawi. Et le hadith il dit, il y a trois personnes dont la prière ne s'élève pas au-dessus de leur tête, même ne serait-ce que d'un empan. Un homme, et il a cité parmi les trois personnes, un homme qui est fait imam devant des gens qui le détestent. Donc je ne sais pas si j'avais traduit. Deuxièmement, c'est celui qui fait imam pour des gens qui ne l'aiment pas. Ou alors, dont la majorité de ces gens ne l'aiment pas. Thalithan, من يخفي بعض الحروف ولا يفصح وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة. Donc là entre guillemets c'est le beg en fait, c'est celui qui répète. Par exemple quand il dit fa il le dit deux fois, fa 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 etc. Ou alors le tamtam, c'est-à-dire celui qui dit plusieurs fois le ta. Celui-là, lui aussi, c'est détestable. Pourquoi ? Parce que, quelque part, il change et il rajoute des lettres dans la lecture. Quatrième question, où se pose l'imam par rapport à ceux qui sont derrière lui ? Donc la sunna, c'est que l'imam soit devant les al-ma'moumin, ceux qui le suivent. Et ils se mettent derrière lui s'ils sont plus de deux ou plus. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. C'est comme ça que faisait le prophète صلى الله عليه وسلم. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. Là, ici, t'as un hadith qui est dans Sahih Muslim et dans les Sunan d'Abi Daoud, comme quoi ils étaient venus, donc deux des compagnons, ils sont venus à la gauche et à la droite du prophète, et lui, il les a pris par leurs mains et les a mis derrière pendant la prière.
ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
Donc là, c'est un acte du prophète. C'est Anas qui le raconte quand il l'a prié dans leur maison. Il a dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés dans la prière et nous sommes mis derrière lui. Ça c'est dans Sahih Muslim.
ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره.
En fait tout à l'heure ils sont trompés, ils ont mis Jabbaran, c'est pas Jabbaran, c'est Abbasan. En fait c'est une erreur ici. C'était pas, ils ont mis, c'est pour ça que j'ai pas voulu traduire les prénoms parce que ça me semblait bizarre. Ils ont dit Jabir et Jabbar, en fait c'est Jabir et Abbas. Là, c'est parce qu'ils répètent le hadith. Il dit ici, si c'est un homme seul avec un autre homme, donc là il se met au même niveau que lui, et à sa droite. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ibn Abbas il était venu prier à sa gauche, il l'a pris et il l'a fait tourner derrière lui jusqu'à ce qu'il l'ait mis à sa droite.
ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
Et il est valide que l'imam se mette au milieu de ceux qui le suivent. Donc ça peut servir notamment quand il y a trop de monde dans la mosquée. Ils disent parce qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a prié entre Al-Qama et Al-Aswad. Donc Al-Qama et Al-Aswad, ce sont des tabi'in parmi les compagnons d'Ibn Mas'ud en Irak, et il leur a dit j'ai vu le prophète faire comme ça sallallahu alayhi wa sallam.
ولكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام.
Mais ils disent ça c'est dans la contrainte. Donc si par exemple il y a du monde ou que la pièce elle est trop petite, et le mieux c'est qu'ils se mettent derrière l'imam.
وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا.
Et les femmes elles se mettent derrière les rangs des hommes, conformément au hadith de Anas, toujours le même, quand il a dit je me suis mis moi et l'orphelin, donc un orphelin avec lui qui ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vieille femme s'est mise derrière nous. Ça c'est dans Sahih Muslim toujours.
المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم.
Donc ce que la responsabilité entre guillemets, ce que l'imam a sur ses épaules vis-à-vis de celui qui est derrière.
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصتوا.
Donc l'imam il a la responsabilité, c'est-à-dire la chose qu'il fait par rapport à celui qui est derrière, la lecture à voix haute. C'est-à-dire que quand il est à voix haute, ça, celui qui est derrière, il n'a plus besoin de le faire.
Conformément au hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il récite, alors taisez-vous, c'est-à-dire l'imam.
Ça, c'est dans les Sunan et authentifié par Sheikh Al-Albani.
ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة.
Et l'autre hadith qui dit celui qui a un imam, alors la lecture de l'imam est pour lui une lecture, c'est-à-dire ça lui suffit, il n'a pas besoin de lire. Ça aussi c'est dans les Musnad de l'imam Ahmed.
et les sunan d'Ibn Majah et Sheikh al-Albani disent Hassan. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. Contrairement à la prière à voix basse. À ce moment-là, la prière de l'imam, la lecture de l'imam, de la fatiha, en tout cas, elle ne suffit plus. Mais chacun, il doit réciter pour lui-même. C'est quoi, qui c'est qui connaît la différence entre, pourquoi ils disent des fois hadith hasan et des fois hadith sahih? Qui connaît la différence? Ouais, mais je veux dire, dans, ça c'est la traduction. C'est-à-dire, vas-y, explique, il n'y a pas de mal. Non, en fait, Hassan et Sahih, c'est pratiquement la même chose. Ce qu'il y a, la différence entre Hassan et Sahih, c'est que le degré de fiabilité des rapporteurs du Hassan, ils ne sont pas au niveau de ceux du Sahih. Sinon, ils remplissent les mêmes conditions. C'est-à-dire que la chaîne de transmission, elle est reliée, il n'y a pas un trou dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme qui dit selon un tel et on sait qu'il ne l'a pas rencontré. Ça fait un trou. Là, on sait que c'est relié. On sait que chacun, il a entendu le hadith de celui dont il le rapporte. Et que ça aille jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que les bonhommes, ils soient adl. C'est-à-dire, et dabit. C'est-à-dire, ils sont adl. C'est-à-dire, ils sont respectables dans leur religion et leur comportement. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient dabit. C'est-à-dire, il maîtrise le hadith et la mémorisation. Et il sait répéter un hadith comme il l'a appris. Et la cinquième condition, c'est Adamul Illa wa Shudud. Enfin, la quatrième et la cinquième, c'est qu'il n'y ait pas un défaut subtil qu'on ne voit pas en apparence dans la chaîne de transmission. Ça s'appelle une Illa. Ou alors Shudud. Shudud, c'est quand un rapporteur qui est lui-même Thiqa ou Sadouq. C'est-à-dire, c'est un rapporteur de confiance dont on accepte le hadith, mais il a contredit quelqu'un qui est plus confiant que lui, ou alors des gens de confiance qui sont plus nombreux que lui. Alors son hadith, il devient faible. Pourtant, il est de confiance, mais on sait que cette fois-là, il s'est trompé. Parce que il a contredit des gens qui sont plus nombreux que lui, ou alors quelqu'un ou plus qui sont plus confiants que lui. Et donc le rapporteur du hadith sahih, on dit c'est un thiqa. Et le rapporteur du hadith hasan, c'est un sadouq. Sadouq, c'est-à-dire quelqu'un qui dit la vérité. Donc il n'a pas atteint le stade de thiqa. Mais cette différenciation entre sahih et hasan, elle est arrivée tardivement. C'est-à-dire au début, les muhadithines, ils faisaient pas de différence. Mais en tout cas, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire au début, ils disaient juste sahih et daif. Et après, pour préciser encore plus, le sahih, ils l'ont divisé en deux. Sahih et hasan. Donc hasan, il est un rang en dessous de sahih. Mais les deux, donc ce soit hasan ou sahih, les deux, quand on a un hadith hasan ou un hadith sahih, il nous oblige l'action, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre le hadith hasan, et s'il y a un hadith hasan, il dit de faire telle ou telle chose, on doit le faire, et il nous oblige aussi l'aqidah, c'est-à-dire si on, dans un hadith hasan, il nous parle de quelque chose qui a trait à la croyance, on doit le croire aussi. Donc il a le même jugement que le hadith sahih. À quoi ça va servir de savoir qu'il est sahih ou hasan? C'est plus dans, par exemple, dans le tarjih. C'est-à-dire, quand les deux hadiths ils se contredisent, et qu'il n'y a aucune façon de les regrouper, et qu'on ne sait pas s'il y en a un qui abroge l'autre, et qu'on est obligé d'en choisir un des deux. Donc là, on va choisir le sahih, on ne va pas prendre le hasan. C'est juste dans certains cas comme ça que ça va servir. Al-mas'ala sadisa, musabaqatu l'imam. Sixième question, le fait d'aller plus vite que l'imam, de devancer l'imam. Il dit « La yajuzu lil ma'moumi musabaqata imamihi » Donc il n'est pas permis à celui qui est derrière l'imam d'aller, entre guillemets, de le devancer. « Faman ahrama qabla imamihi lam tana'aqid salatuhu » Donc celui qui dit « Allahu Akbar » au début de la prière avant l'imam, sa prière n'est pas valide. « Lianna shartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu » Puisque la condition, c'est qu'il le dise après l'imam. Or là, il ne l'a pas fait. Et dans les actes de la prière, celui qui est derrière l'imam, il doit commencer toujours après l'imam. Les hadiths, innama ju'ila l'imamu liyutamma bihi, fa idha kabbara fa kabbiru, wa idha raka'a farka'u, wa idha qala sami'allahu liman hamidah, fa qulu rabbana wa laka alhamd, wa idha sajada fa sjudu. Le hadith dit, donc ça c'est dans les deux sahih, l'imam n'a été placé que pour qu'on le suive. Donc quand il dit Allahu Akbar, alors dites Allahu Akbar. Donc il a dit fa, c'est-à-dire alors, ça implique que c'est après. Et quand il s'incline, alors inclinez-vous. Et quand il dit Sami Allahu liman hamida, alors dites Rabbana wa lakal hamd. Et quand il se prosterne, alors prosternez-vous. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته. Mais si il le fait en même temps que lui, par exemple, dans ces actes-là, ou alors dans le salam à la fin, c'est déconseillé, c'est détestable, parce qu'il aura contredit la sunna, qui est de le faire après. Mais sa prière est valide. لأنه اجتمع معه في الركن وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم. Et si par contre il le devance, ça c'est haram, c'est-à-dire c'est interdit et ça comporte un péché. Car le hadith dit ne me devancez pas dans l'inclinaison, ni la prosternation, ni le qiyam, c'est-à-dire le fait d'être debout. Ça c'est dans Sahih Muslim. Et l'interdiction applique un tahrim, c'est-à-dire tahrim et non pas le karaha, c'est-à-dire une interdiction qui implique un péché dont on doit se repentir. Pas une simple karaha qui indique plutôt qu'une chose elle est simplement déconseillée sans qu'elle comporte un péché. Puisque l'interdiction an-nahi, donc an-nahi, il se divise en deux. An-nahi, ça veut dire l'interdiction. Mais l'interdiction dans l'islam, elle est en deux. Karaha et tahrim. Karaha, c'est ce qui est déconseillé. Et si tu le fais, tu n'as pas de péché, mais tu n'as pas fait ce qui est, tu n'as pas fait le mieux, entre guillemets. Et tahrim. Tahrim, là, c'est interdit, dans le sens où, si tu le fais, tu as un péché, il faut t'en repentir. Donc après, dans les textes, quand le prophète dit ne faites pas ça, c'est selon le genre de texte, selon la chose dont il parle, est-ce qu'il est en train de parler d'un simple comportement de la vie quotidienne ou est-ce qu'il parle d'un acte religieux, et selon aussi les indices, c'est-à-dire d'autres hadiths qui sont dans le même thème, qu'on va savoir définir. Est-ce que ce nahi, donc cette interdiction, elle vise une karaha, c'est-à-dire quelque chose de déconseillé, ou un tahrim, c'est-à-dire une interdiction dure, stricte. Wa an Abi Hurayra marfu'an. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Et le hadith dit aussi dans les deux sahih, ne craint-il pas celui qui lève sa tête avant l'imam qu'Allah change sa tête en tête d'âne. المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. Septième question, donc des règles diverses en ce qui concerne l'imam et le groupe. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم أولا استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأنات خلف الإمام وقريبا منه لقوله صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La première chose, c'est qu'il est préférable dans la prière que ceux qui soient proches de l'imam, ce soit les gens de science et les gens de comportement et les gens de raison, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que me suivent parmi vous ulul ahlam wa nuha, c'est-à-dire ça englobe la science, le comportement, les gens qui ont la science, le comportement et ceux qui les suivent, c'est-à-dire dans les degrés. Ça c'est dans Sahih Muslim. C'est-à-dire il faut éviter, par exemple, des fois un jeune qui viendrait de rentrer dans la religion, il connaît pas trop la religion, il faut pas le laisser se mettre derrière l'imam. C'est pas un mal si tu lui dis de se déplacer, parce que s'il veut se mettre au premier rang, il vaut mieux qu'il se mette bien à gauche ou bien à droite, et il faut laisser derrière l'imam quelqu'un qui connaît la religion. Pourquoi? Parce que si l'imam il se trompe, eh ben il saura le corriger en disant par exemple Subhanallah. S'il se trompe dans le Coran, il pourra le corriger à voix haute en lui disant le verset. Et si l'imam y part, parce qu'il a perdu ses ablutions par exemple, et qu'il le tire, il sait comment se débrouiller, entre guillemets. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas, lui, il saura pas y faire. وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذُ عَنِ الْإِمَامِ. Et même on peut en retirer de ça que si toi, t'as appris... ça c'est pas dans le livre, ça c'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire si toi t'as appris les règles de la prière et tu sais que, donc t'as lu, t'as appris, t'as suivi des cours, tu sais que, c'est-à-dire tu connais les piliers des obligations, tu connais comment on fait la prosternation de l'oubli, tu sais comment ça se passe si l'imam y part, etc. Alors et tu sais très bien que les gens de ta mosquée, ils le savent pas. Et que souvent, bah, derrière l'imam, comme c'est dans la majorité des cas, au contraire, derrière l'imam, souvent, c'est des gens, ils sont pas aptes, ni à le corriger, ni à corriger la prière. Donc, tu auras une récompense, et c'est-à-dire, l'islam, il nous encourage à ce que toi, qui as le savoir, tu viennes plutôt pour essayer d'être derrière l'imam. Pour que s'il arrive quelque chose, eh ben, tu sois là, et que tu laisses pas la place à quelqu'un qui connaît pas et qui va faire n'importe quoi avec la prière des gens. والحكمة في ذلك أن يأخذ عن الإمام ويفتح عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك ويستخلف منه من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. Donc là, ils disent, la sagesse dans tout ça, c'est tout ce que je viens de vous citer. ثانيا الحرص على الصف الأول. Deuxièmement, le fait d'être assidu au premier rang. يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر. Il est préférable donc aux gens qui viennent prier de se mettre au premier rang et d'y être assidu et de faire attention à ne pas être à l'arrière. لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بي تقدموا فأتموا به فأتموا بي pardon وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Donc il dit devancez, تقدموا, c'est-à-dire mettez-vous en avant. Ça c'est un hadith du prophète, un ordre. Et suivez-moi, et ta'amoubihi, c'est-à-dire suivez-moi dans la prière, et que ceux qui sont après vous vous suivent, c'est-à-dire dans la prière. C'est comme ça la sunna. C'est que si par exemple à l'époque il n'y avait pas de micro, des fois tu peux ne pas entendre l'imam, c'est que chaque rang il suit le rang qui est devant dans les gestes. Et il dit les gens ne cesseront, ou certaines personnes ne cesseront de reculer jusqu'à ce qu'Allah les recule. Wa qawluhu, ça c'est dans Sahih Muslim. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Ça aussi c'est dans Sahih Muslim. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, si les gens savaient ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qu'il y a comme mérite dans l'appel à la prière et dans le premier rang, et qu'ils ne trouvaient que le tirage au sort pour le faire, ils tireraient au sort pour savoir qui fait l'appel à la prière et qui se met au premier rang. Ici, on peut faire une parenthèse. Un conseil que j'avais entendu de Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit sur Al-Fiqh Fid-Din, sur la compréhension et la science dans la religion. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit maintenant, on voit beaucoup de jeunes, c'est-à-dire ils sont assidus au fait de prendre une sutra dans leur prière, et ils se privent du premier rang à cause de ça. C'est-à-dire, ils viennent en avance, et au lieu de se mettre au premier rang, parce que s'ils sont au premier rang, ils vont prier sans sutra. Parce que souvent les murs ils sont loin dans les mosquées, loin du premier rang, t'es pas juste devant le mur. Donc il dit il prie derrière une sutra et il rate le premier rang. C'est-à-dire ils ont mis en priorité quoi? La sutra vis-à-vis du premier rang. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit alors que la sutra c'est pas une obligation. Même si c'est vrai qu'il y a des ulama qui disent que c'est une obligation, mais la majorité des ulama ils le disent pas. Ils disent c'est quelque chose de préférable, c'est une obligation si tu sais que si tu crains que des gens y passent devant toi, s'il y a du monde ou du passage. Sinon c'est pas obligé mais simplement recommandé. Donc Cheikh dit comment délaisser le premier rang pour quelque chose qui est simplement recommandé. Et ça, la plupart des jeunes qu'on voit ils le font. C'est-à-dire ils vont à la mosquée, tout le monde y va devant et eux ils cherchent le pilier derrière. Et après ils ratent le premier rang, alors que il était arrivé assez en avance pour avoir le premier rang. Et en plus, au premier rang, personne n'y va passer devant toi. Donc, t'as pas à craindre au niveau de ta sutra. أَمَّا النِّسَاءُ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُنَّ فِي الصُّفُوفِ الْمُتَأَخِّرَةِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. Toujours dans Sahih Muslim, il dit qu'il ramène un hadith comme quoi le meilleur rang pour les femmes, par contre, c'est ce qui leur est préférable, c'est d'être reculé. Et le hadith il dit, le meilleur des rangs des hommes, c'est le premier, et le plus mauvais, c'est le dernier. Et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers, et les plus mauvais, c'est-à-dire les pires, sont les premiers. Thalithan. D'ailleurs, on peut, vous souvenez, on avait fait, on a fait Salat al-Jama'a, et il citait les différentes preuves sur l'obligation de la prière en groupe. Là, on peut en tirer une preuve. Du hadith celui-là et celui qu'on a cité avant. Quand il a dit des gens ne cesseront de se reculer jusqu'à ce qu'Allah les recule. Si ça c'est vrai pour des gens qui viennent à la prière, et le prophète il les menace pour ceux qui se mettent dans les derniers rangs, qu'Allah les menace d'un châtiment, alors qu'en est-il pour celui qui reste à la maison? Donc on peut en tirer l'obligation aussi. Thalithan, taswiyatu as-sufuf wa at-tarasi baynahum wa at-tarasi fiha wa saddu al-furaj wa itmamu as-saff al-awwal fal-awwal. Ensuite, le fait de bien faire les rangs et de les égaliser et de les souder et de ne pas laisser d'espace et de les faire un par un. يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة. Donc il est préférable que l'imam recommande d'aligner les rangs et de ne pas laisser d'espace avant de rentrer dans la prière. لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك, car le prophète l'a fait. ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Et ça, il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, égalisez vos rangs, car l'égalisation des rangs fait partie de min tamam istalah, c'est-à-dire de la perfection de la prière et de l'accomplissement de la prière. Ça c'est dans Sahih Muslim. Wa an Anas radiyallahu anhu qala uqimatis salatu fa aqbala alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi wajhihi fa qala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni araakum min wara'i dhahri. Dans un hadith, Anas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire la prière, il nous a fait face et il nous a dit aqimu sufufakum, c'est-à-dire alignez bien vos rangs, Watarasu, et soudez-les, car je vous vois de derrière mon dos. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Wa qala Anas radiyallahu an kana ahaduna yalzaqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamihi bi qadamihi. Anas dit radiyallahu an, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, l'un d'entre nous, c'est-à-dire là il raconte l'acte des compagnons à l'époque du prophète. Il dit il collait son épaule à l'épaule de son sahibihi, c'est-à-dire de son compagnon dans la prière, et son pied à son pied, c'est-à-dire cheville contre cheville. ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه. Donc il est demandé aussi de bien compléter le premier rang puis celui d'après, c'est-à-dire dans l'ordre. فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف. Donc s'il y a un manque, il faut qu'il soit au dernier rang, c'est-à-dire un manque de personnes. لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. Il a dit ne vous mettrez-vous pas en rang comme le font les anges auprès d'Allah. Ça c'est dans فقل... ah, il a pas fini. Il dit فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها. Les sahaba, ils ont dit au messager d'Allah, et comment les anges se mettent en rang auprès d'Allah? قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Il a dit ils complètent les premiers rangs et il se soude dans le rang. Ça c'est dans Sahih Muslim. Rabi'an, salatul munfaridi khalfa as-saff. Quatrièmement, qu'en est-il de la prière d'une personne qui prie seule derrière le rang? La tasihu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfa as-saff. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la salata li munfaridin khalfa as-saff. Donc la prière de quelqu'un qui prie seul derrière le rang n'est pas valide. Donc dans le hadith, il a dit, ça c'est dans le Musnad, aussi dans Sunan ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani, il a dit il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan yusalli wahdahu khalf as-saff fa amarahu an yu'id as-salah. Et le prophète a vu quelqu'un qui avait prié seul derrière le rang et lui a ordonné de refaire sa prière. Et ça c'est dans les Sunan d'Abi Daoud et de Tirmidhi et d'Ibn Majah. Ils disent authentifié par Sheikh Ahmed Shakir et le Sheikh aussi al-Albani rahimahumullah. Donc ça, bien sûr, c'est dans le cas où il aurait la place dans les rangs et il ne rentre pas dedans. Maintenant, s'il n'a pas la place, qu'est-ce qu'il fait? Donc il y a divers avis chez les ulama. En tout cas, l'avis que je connais, c'est qu'il prie seul derrière le rang. Puisqu'il a fait, Allah il dit, « Ittaqullah mastata'tum, craignez Allah selon vos capacités, autant que vous pouvez. » Et là, il ne peut pas se mettre dans le rang parce qu'il n'y a pas de place, donc il se met seul derrière. S'il peut se mettre devant, mais là, il ne faut pas le faire n'importe où pour ne pas te faire lâcher, s'il peut, il sait qu'il n'y a personne qui viendra après, et il peut se mettre devant et se mettre à droite de l'imam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait fait avec Abu Bakr pendant sa maladie, quand Abu Bakr il guidait les gens, et le prophète il est venu après, il s'est mis à côté. Ça, c'est possible aussi. Al-Bab al-Tasi'a, combien de temps il reste? Al-Bab al-Tasi'a, le 9e chapitre, fi salati ahli al-A'dhar. C'est sur la prière de ceux qui ont une excuse. c'est-à-dire le malade, celui qui a un voyage, etc. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. Donc les gens des excuses, أهل الأعذار, c'est-à-dire ce qui est voulu par eux, c'est les malades, les voyageurs et ceux qui ont peur, ceux qui ont une crainte, qui ne peuvent pas faire la prière de la façon légiférée, comme l'a fait autre que ces trois catégories de personnes. فَقَدْ خَفَّفَ الشَّارِعُ عَنْهُمْ فَيُصَلُّونَ حَسْبَ اسْتِطَاعَتِهِمْ. Donc Allah a rendu à alléger leur cas et ils prient selon ce qu'ils peuvent faire. قَالَ تَعَالَى وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah a dit donc, Allah n'a pas mis de gêne pour vous dans la religion. وَقَالَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. وَقَالَ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et dans l'autre verset, craignez Allah autant que vous pouvez. فَكُلَّمَا وُجِدَتِ الْمَشَقَّةُ وُجِدَ التَّيْسِيرُ. Donc à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a une facilité en face. أَوَّلًا كَيْفِيَةُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ. وَالْمَرِيضُ هُوَ الَّذِي اعْتَلَّتْ صِحَّةُ بَدَنِهِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا. Premièrement, c'est le malade. Donc le malade, c'est celui qui a été atteint dans la santé, dans l'état de son corps, que ce soit de façon globale ou de façon partielle. ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان ولو على هيئة الراكع لمن بظهر مرض لا يستطيع أن يمد ظهره أو مستندا إلى جدار أو عمودا أو على عصا. Donc il est le malade doit en tout cas faire la prière obligatoire et il doit la faire debout s'il peut, et il la fait de la façon qu'il peut et dans la position qu'il peut. Donc même s'il doit rester penché et incliné, pour celui qui est malade du dos par exemple, et qui n'arrive pas à se dresser, il fait comme il peut. Ou alors s'il doit s'appuyer sur un mur, ou sur un bâton, ou sur un pilier, il le fait. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Dans le hadith, il a dit, صلى الله عليه وسلم, quand je vous donne un ordre, accomplissez-le selon votre capacité. Ça c'est dans les deux sahihs. فإن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنبه. S'il ne peut pas le faire debout, il le fait assis, et s'il ne peut pas, il le fait allongé sur son côté. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Et dans le hadith, il a dit à un compagnon, prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, et si tu ne peux pas, prie sur le côté, c'est-à-dire allongé sur le côté. فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. S'il peut faire aucune chose de ces trois, il fait selon ce qu'il peut faire. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. Et la prière dans tous les cas ne tombe pas, c'est-à-dire l'obligation de la prière ne tombe pas vis-à-vis du malade dans tous les cas tant qu'il a sa raison. Donc même s'il doit prier en faisant des signes, même des signes des yeux ou des signes de la tête, il le fait. S'il peut encore faire ça, et qu'il peut encore avoir l'intention, il le fait. Donc là, il dit, sachant qu'il y a une divergence dans cette... Ça, c'est intéressant de le savoir. Il y a des ulama, ils disent non. Ils disent, comme dans le hadith, il lui a dit, si tu pries debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, allonge-toi. Donc des ulama, ils ont dit, le dernier degré, c'est allonger. Il lui a pas rajouté, si tu peux pas allonger, fais un signe de la tête. Il a dit, le dernier degré, c'est allonger. Donc celui qui peut même pas prier allongé, eh ben, il prie pas. Certains ulama, ils ont dit ça. Conformément donc au hadith. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع فإذا عجز عن الإيماء برأسه أو ما بعينه. Donc le malade, quand il prie assis, il fait l'inclinaison et le soujoud avec sa tête, c'est-à-dire il se penche comme ça et il fait que la prosternation soit plus basse que le rukou', c'est-à-dire ce qui aura le statut de rukou' chez lui, il faut qu'il soit plus élevé que le soujoud, c'est-à-dire il va se baisser comme ça et pour ce qui est pour lui le soujoud, il va se baisser plus. Et s'il ne peut pas faire signe avec la tête, il le fait avec les yeux. Voilà, c'est un peu long, par contre, on va la prière du voyageur, on va le laisser pour la fois prochaine, Inch'Allah. Par contre, on peut dire aussi, c'est-à-dire parmi les erreurs qu'on peut entendre, et qui c'est-à-dire elle rentre pas dans aucune porte de fiqh, c'est-à-dire c'est pas possible de dire des choses pareilles vis-à-vis de la jurisprudence islamique. C'est par exemple de dire que quelqu'un est au bureau. Ça, on l'entend souvent. Il est au bureau, et donc il a honte. Il veut pas prier debout. Parce qu'il travaille avec des non-musulmans. Alors il prie assis. Et il y a des gens, ils lui permettent. Ils disent, ouais, bah, il joue, c'est pas grave, etc. Ça, c'est faux. Puisque le prophète, il a bien dit, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Il a dit, prie debout si tu ne peux pas. C'est quoi l'istita'a? L'istita'a, c'est que tu puisses physiquement te mettre debout. Et que tu craignes pas pour ta vie. C'est-à-dire, admettons que tu sois dans un endroit où effectivement, si tu pries debout, des ennemis ils vont te voir et ils vont te prendre en prison et on ne sait pas ce qu'ils vont te faire. Là, ouais, on te dit prie assis, alors que normalement tu pourrais te mettre debout. Mais si tu te mets debout, ça touche à ta vie, ça touche à ta santé, alors que là, sur quoi ça touche? C'est juste parce qu'en vérité, t'as honte, c'est tout, de ta religion, et t'as peur des autres. Et t'as pas mis ta confiance en Allah. Alors que si en vérité t'avais mis ta confiance en Allah, tu vas trouver que les gens après ils vont s'ouvrir et ils vont dire bon, il n'y a pas de problème, ils vont pas te faire d'ennui. Et il y a des gens qui permettent ça aux gens. Ou alors on a déjà entendu aussi par exemple quelqu'un qui travaille sur la chaîne, eh ben il prie avec ses yeux. Subhanallah, alors qu'il a la santé, il peut se mettre debout, il peut faire les gestes, il peut tout faire. Une différence entre la contrainte physique qui t'empêche de prier debout, ou alors al-khawf, c'est-à-dire si tu pries debout, on va t'attraper, on va te mettre en prison, on va te torturer, on va te tuer, etc. Comme ça peut être le cas dans les temps de guerre. Et ce que les gens appellent incapacité, qui n'est pas une incapacité vis-à-vis de la religion. Donc les gens, ils jouent sur les mots. Ils disent, je suis incapable de prier debout. Alors qu'en fait, il est tout à fait capable. Mais il veut pas. Il veut pas faire l'effort de demander une pause, etc. Et chacun, il doit savoir ce qu'il veut comme priorité dans la vie. Est-ce qu'il veut mettre en priorité ses adorations? Ou alors sa vie d'ici-bas. Et à la kulli hal, comme on avait déjà vu le hadith de Aïcha, où elle a, radiallahu anha, quand elle a écrit à Muawiyah, Muawiyah, elle avait demandé à Aïcha de lui donner un simple conseil. Donc Muawiyah, il était au Shem, et Aïcha à Médine, et elle lui a écrit une lettre. Qu'est-ce qu'elle lui a écrit? Elle lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui met Allah en colère pour la satisfaction des gens, Allah sera en colère contre lui et les gens seront en colère contre lui. Puisque c'est qui détient les cœurs? Toi, tu réfléchis avec ton cerveau, mais les cœurs, ils sont entre les doigts d'Allah. Si tu satisfais Allah, Allah, il va, c'est lui qui maîtrise les gens. S'il veut les rendre satisfaits de toi, ils seront satisfaits de toi. Et celui qui satisfait Allah en mettant les gens en colère, Allah, il sera satisfait de lui et les gens, ils seront satisfaits de lui. C'est-à-dire, et ça, on le voit. Donc ça, dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire, etc., il faut faire l'effort. Souvent, les gens, ils disent « je peux pas ». En fait, ils peuvent. Mais c'est la honte. Ils ont honte, c'est shaitan. C'est le diable qui vient et il leur donne la peur des autres. Alors qu'en vérité, s'il fait l'effort, il va trouver que les gens, en vérité, ils sont pas comme lui, ils pensent au fond de lui. Ils vont dire « bah va, je te permets », etc. Ils vont lui donner la permission. Inch'Allah. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه